Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Salut Charline.
Oh, ça va pas?
Je suis inquiet.
Mais pourquoi?
On reçoit Nadia Dar.
Bah c'est super.
Non mais j'ai peur, mais tu me connais, moi parfois je me rends pas compte, ouais. Et puis bim, je fais des blagues parfois, bon, pas toujours hyper féministe.
Carrément misogyne, tu
vois.
Bah,
voilà, ouais. Voilà, c'est ça. Il est féministe, bon, bah, elle veut parfois me mettre des coups de balai plutôt qu'utiliser le balai pour faire le ménage.
Non, oulala, attention, c'est hyper misogyne cette vanne.
Ah, bon bah, je m'en suis pas rendu compte.
Alors voilà. On va commencer par le début.
Voilà, alors ouais. On va dire bonjour, madame, dame.
Ouais, ça, bien, ça, pas de blague.
Pas de non, voilà. Madame, c'est bien.
Pourquoi tu...
Bah, madame, c'est pas trop genré, ça va pas trop la choquer que je la casse immédiatement dans la moitié de l'humanité qui est oppressée par le patriarcat.
Non, je pense madame, ça va,
alors,
mais...
Bon, après, j'ai réfléchi pour lui faire plaisir, parce
comme quoi,
Je pourrais faire des compliments.
Ah, oulala, non, et sur quoi, par exemple?
Sa tenue,
oh, non, mais bien alors, sûr que non.
Ok, ses cheveux. Vous avez un très beau dégradé, madame, dame, c'est très recherché.
Non, parle-lui plutôt de ce qu'elle écrit, c'est mieux.
Mais hein. Oui, de ce qu'elle écrit, évidemment, j'avais pas pensé.
Ah, bah ça, c'est une grande partie du problème.
Hein. Et après, peut-être, elle va me trouver sympa, et là, paf, je l'invite au resto.
Aïe.
Et là, on fait 50-50 sur l'addition.
Ah, bah oui, d'accord, ouais.
Je crois que ça commence bien à rentrer, là, je commence vraiment à saisir les subtilités du combat féministe.
Dis donc, on aura mis du temps, hein, mais combien de fois j'ai dû monter au créneau.
C'est normal que t'aies mis du temps avec les créneaux, hein, c'est pas un truc de bonne femme.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'ambiance start-up, là où la blague vient briser la pâte de l'actualité. L'Europe représente un espoir... pour 29% des Français. Il y a 15 ans, ils étaient encore plus de 60% à croire en l'Union Européenne.
Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.
Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus.
La contraception, les femmes la payent souvent de leur santé, prise de poids, chute de la libido, effet nocif. Mais la pilule est le symbole de la liberté des femmes. Pour en parler, est apparu le hashtag paye ta contraception et le prototype d'une pilule pour hommes arrive.
Je vous offre une capote gratuite. Gouffrez de la passion. Moi, mon copain, c'est ce qu'il met à chaque fois qu'on a un rapport. Ça fait que son zboub sans la pâtisserie.
Dans le secteur privé, on se tutoie de plus en plus entre employeurs et employés. Un principe égalitaire ou un principe caché de domination?
Je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein? Ça va, ça suffit, hein?
Lui, il tutoie à tout va depuis qu'il a basculé dans le show business. C'est Alex Vizorek.
C'est pas faux, bonjour Charline Vanhoenacker. Bon, c'est un peu en minorité, mais ça va bien se passer. J'ai une belle équipe extrêmement féminine à 17h20. Si on allait tous les deux chez le disquaire, il y a de bonnes chances qu'on ne se croise jamais dans nos rayons respectifs, puisqu'elle écoute autant Serge Lama que je n'écoute du ragamuffin autrichien. C'est Mélanie Bauer, bonjour.
Bonjour, je vais vous parler de femmes et d'un festival qui s'appelle Les Femmes S'en Mêlent.
Oh, étonné. 17h30,
excusez-moi,
trop d'enthousiasme. Cette semaine, elle s'est étonnée que Jean-Louis David soit décédé quelques jours après Agnès Varda.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on attend sa chronique sur le sujet non résolu de la coloration champignonnesque d'Agnès. Bonjour Christine Gonzalez.
Bonjour, et ce soir on ne va pas parler ni d'Agnès Varda ni de Jean-Louis David. Quoique, on va parler de panneaux publicitaires avec l'architecte Le Corbusier, visiblement très remonté.
Les côtés au derrière suivront très bien.
Ah! À 17h40, celle qui me remplace très bien dans cette émission sur tous mes domaines de compétences, sauf qu'elle n'arrive pas toujours bien à formuler les blagues misogynes et ça agace mes fans du collectif de l'humour bonhomme. C'est Juliette Tardot, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
De vacances en Grèce.
Très bien. Et à 17h55, il viendra me soutenir entre toutes ces femmes par sa virilité qui n'est pas sans rappeler Bernard Lavillier après 3 mois de famine dans une jungle tropicale. C'est Frédéric Fromet qui viendra chanter sa chanson.
Et voici celle qui va enjailler l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Eh ben Nadia Dam.
Oh, oui,
je la reconnais.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Nadia Dam.
Merci.
On peut vous voir tous les soirs dans 28 minutes sur Arte auprès d'Elisabeth Quin, l'une des émissions les plus intelligentes et intéressantes du PAF.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, après cette émission, vous allez filer pour nous préparer la belle émission de ce soir. 28 minutes donc. Vous n'êtes pas sortie du moule habituel des journalistes de télévision. Vous n'avez pas fait d'école de journalisme. Ça vous permet d'avoir un autre regard, un autre questionnement. Vous pensez? Oui,
je pense, mais ça n'a pas été quantifié. Je ne sais pas combien on est, en fait, dans les jeunes journalistes en télé, en radio, ou peu importe, à ne pas avoir fait d'école.
Souvent, il y a un chemin, c'est-à-dire que le système français est quand même très contraignant.
Très.
Il faut montrer patte blanche, il faut sortir d'une école reconnue par la profession, etc.
Oui, il faut avoir le bon bac, il faut avoir la bonne prépa. Ouais. Alors, en plus, il y a même des classements à l'intérieur même des écoles de journalisme. C'est-à-dire que ceux qui ont fait Strasbourg vont mal regarder ceux qui ont fait Nice, par exemple, ce qui est assez drôle. Et moi, je suis sortie de tout ça parce que j'en ai fait aucune. Ouais. Et j'ai un DUG. Non, j'ai une licence. Ouais. Je sais pas si on dit.
Et malgré tout, vous êtes un peu rentrée par la fenêtre. Et...
Ah ouais. Et même par la chatière.
C'est vrai. Vous avez aussi notamment commencé aussi au web à Libé, où vous avez fréquenté.
Ouais, les petites annonces.
Ah oui.
En fait, j'étais à la fac, en fac d'art du spectacle. Mm-hmm. Et là, en général, il y a des gens qui disent c'est la fac de chômeurs, ce qui est pas faux, parce que c'est une fac d'intermittents qui préparait les gens à faire du théâtre, etc. Mais et qui n'avait donc rien à voir avec le journalisme. Et je cherchais des petits boulots et j'ai été embauchée à Libé pour recevoir les petites annonces de Libé. Et à l'époque, c'était un truc qui s'appelait message personnel, qui est l'ancêtre de Tinder. C'était les gens qui se croisaient dans le métro et qui disaient 8h du matin, ligne 13, tu portais telle couleur, etc. Et, ouais. Donc j'ai fait ça.
Ça marchait moins bien.
Ça marchait pas super, ouais.
Oui, c'est vrai que vous avez fait des études sur le spectacle, vous devenez journaliste, alors qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui font dans le spectacle.
Malgré nous, parfois, oui.
C'est vrai. Comme quoi, si vous nous écoutez, il y a moyen de réussir aussi sans suivre les sentiers battus.
Alors non seulement il y a moyen, mais moi je le recommande presque, en fait, parce que c'est des trajectoires un peu atypiques et que c'est bien qu'on se ressemble pas tous.
Et pour éviter d'être formaté. C'est ce qu'on peut aussi lire quand vous écrivez sur Slate, d'ailleurs. Tout le monde se moque de moi avec mon accent sur Slate, mais on lit, en tout cas, on lit vos articles avec bonheur sur Slate, du coup.
Voilà. J'ai pas compris comment il fallait dire.
Vous dites comme moi.
Slate, vous dites
Slate. Ah, à l'anglaise.
Bon.
Si les Français qui nous disent à l'anglaise, on est sauvés.
Nadia Dame, vous êtes...
Pourquoi est-ce que j'ai répondu?
Nadia Dame, vous êtes journaliste et... D'une certaine manière, bien malgré vous, vous êtes aussi sujet d'actualité. Vous avez été la cible. Bah oui, vous êtes la cible d'un cyberharcèlement, on peut dire d'un cyberacharnement pour une chronique à l'époque sur Europe 1, c'était il y a 2 ans. Vous avez dénoncé une plateforme de discussion sur Internet.
Ouais, vous êtes sympa. Hein.
Ouais, c'est-à-dire j'ai une autre définition, un nid de facho.
Voilà, c'est pas mal.
Et d'antiféministe primaire. Vous et votre fille étaient menacés de mort, allés très loin, des harceleurs ont été poursuivis, condamnés. Alors, c'est des peines avec sursis. C'est bien, ça paraît bien gentillet par rapport à tout ce que vous avez subi, Nadia Dame. Et puis, il y a 2 semaines, il y a eu un dernier procès en date. Et on s'est rendu compte que celui qui vous menaçait, qui vous harcelait terriblement, est un jeune étudiant en philosophie de 27 ans.
Eh oui.
Et il y a notamment, par exemple, si vous regardez en ligne sur Télérama, où il y a pas mal d'articles qui donnent un aperçu de sa défense complètement dingue. Et il a osé dire que c'était rabelaisien de harceler quelqu'un.
Ah ouais, il a dit même plus que ça. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que ça corrobore ce que j'essaye de dire depuis longtemps. C'est qu'on a une image des harceleurs en ligne. On s'imagine tous que ce sont des gamins de 16 ans qui vivent dans la cave de chez leurs parents, qui sont puceaux, etc. Ils le sont, je pense, plutôt. Mais ils sont pas forcément jeunes, ils sont pas forcément désocialisés. Moi, tous ceux que j'ai poursuivis en justice, ils avaient des boulots. Ouais. Ils avaient une trentaine d'années. Enfin voilà, ce sont pas des gens qui sont hors de la société, c'est pas des gosses. Et c'est une manière de les déresponsabiliser, de dire que c'est des gamins, c'est pas vrai, ce sont pas des gamins. Et lui, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un champion absolu, parce qu'il prépare la grecque de philo.
Non.
Ce qui veut dire qu'il va enseigner, a priori, auprès d'enfants. Et faites gaffe quand, si vous habitez Rennes et que vous avez des enfants en âge d'être scolarisés, faites attention. Et en fait, oui, il a une ligne de défense absolument délirante où il expliquait que... Alors son texte est vraiment hardcore. Hein. Personne n'a pu le publier dans les articles de presse qui ont suivi ce procès, tellement ça contrevenait à toutes les règles du CSA, de tout ça. Nécrophilie, antisémitisme, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et il parlait notamment de violer le cadavre de ma fille et le mien. Mais il a expliqué face au juge dont la mâchoire s'est décrochée que c'était rabelaisien, que c'était une démarche fantasmagorique que c'était du fantasme et que oui, bien sûr, il allait pas violer mon cadavre, mais qu'il aimait bien l'imaginer à tel point qu'il en ait fait un texte de 25 lignes, mais ouais.
Oui. Le témoignage, c'est toujours ce qui fait avancer la société. Donc vous, vous avez le courage de raconter tout ça parce que ça a été d'une violence extrême. Aujourd'hui, votre cuir est un peu plus épais, mais quand même, ça reste extrêmement violent. Il faut du courage pour témoigner. Est-ce que votre cas fait avancer la condition des victimes? Parce que voilà, vous êtes médiatique. Alors, ce serait pas arrivé si vous n'étiez pas médiatique dans autre sens. Oui. Mais voilà, vous avez le courage, vous allez en procès, etc. La presse suit de près parce que l'intérêt, c'est aussi, comme vous dites, qu'on voit que ce sont pas que des ados dans les caves, que c'est des gens qu'on croise dans la rue avec lesquels on travaille peut-être, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que la justice a les armes, les réponses, qu'on est conscientisé que votre cas a fait un peu avancer les choses?
La justice, elle avait déjà les armes avant, parce que ça a toujours été interdit de dire à une femme « je vais te violer », en fait. Donc c'est pas, ça a rien changé à la justice et au texte de loi. Ce que ça a peut-être changé, c'était le fait que j'ai incarné le harcèlement, encore une fois bien malgré moi, mais que j'ai pu dire voilà ce qui m'est arrivé, et que de fait, oui, effectivement, en étant journaliste, j'ai bénéficié d'une forme d'effet de loupe et de soutien qui a pu être aussi contre-productif, parce que ça a alimenté le délire sur les journalopes, etc. Évidemment, à chaque fois, on remet une pièce dans la machine.
En plus, c'était une époque où les gens écoutaient Europe 1, donc...
C'est vrai.
Vous n'avez pas eu de bol, vous l'auriez fait là maintenant.
Là, j'étais tranquille. Mais oui, effectivement, voilà, simplement le fait de pouvoir raconter ça. Et je ne sais pas si les peines étaient plus ou moins sévères avant ou après mon affaire, mais le fait est qu'effectivement, on en a parlé, que ça a peut-être sensibilisé les gens. Après, je ne suis pas certaine que ce soit très dissuasif, parce que moi, je ne suis plus sur Internet, enfin, je ne suis plus sur Twitter, etc. Mais j'ai des amis qui y sont, et puis je vois ce qui s'y passe. Et les gens n'ont pas arrêté du jour au lendemain de menacer les femmes et les féministes de viol grâce à moi. Donc,
ne laissons rien passer, effectivement. Nadia Adam est avec nous. On va parler d'Europe, les amis. Oh la mano! Sur France Inter.
J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me
passer de toi. Je vais, je peux très bien me passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat. Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie de crever ton chat, comme envie d'accident de voiture. Je peux très bien me passer de toi. Je peux très bien me passer de toi.
Comme envie de creuser, crever ton chat et tes pneus.
C'est sûr, très à propos.
Mais la programmation musicale, c'était pas fait exprès.
Donnez des idées aux harceleurs, vous n'avez pas pensé à crucifier les animaux domestiques. C'est bien.
La liste est faite, envie d'accident de voiture, etc. Alors, il faut savoir que la programmation musicale de Joubaka se fait bien en amont de la visite de Nadia Adam.
C'est dire s'il est fourbe. Parce qu'il savait qu'on allait parler de ça.
Nadia Dame avec nous avant de la retrouver ce soir sur Arte dans 28 minutes et de la lire sur Slate. Nadia Dame, pour l'entourer.
J'ai l'impression que c'est pas mieux, mais moi, j'ai... Bon, franchement,
c'est pire.
Moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien.
Ça va finir en accent espagnol, c'est pas
pour toi. Dis-moi, Alex.
Moi, je vais vous dire qu'il y a Mélanie Bauer qui va parler musique, il y a Christine Gonzalez qui va parler avec Le Corbusier, il y a Juliette Arnaud qui va parler de livres et Frédéric Fromet viendra chanter.
Allez, place à l'information.
En 5 ans, il y a eu 18 millions de migrants en Europe.
Le journal de presque 17h17.
Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million.
Et on commence par les titres.
Oui, hier sur France 2 et France Inter, c'était le débat pour les européennes dans l'émission politique.
Et oui, pour la première fois, Léa Salamé n'était pas sur le plateau TV, mais devant un plateau TV.
Durant le débat, Nicolas Dupont-Aignan a sorti une fake news en direct en annonçant qu'en 5 ans, 18 millions de migrants étaient arrivés en Europe.
Et oui, pour arriver à ce chiffre, il a ajouté les mouvements migratoires intra-européens. En gros, ceux qui résidaient déjà dans un des 28 États. Dupont-Aignan, c'est le genre de mec, quand tu lui demandes combien il a d'enfants, il compte les spermatozoïdes dans ses couilles.
C'est vrai.
Et ouais, j'ai autant de brèves en stock que Nicolas Dupont-Aignan a de conneries à dire.
Donc hier soir, le débat organisé, France 2, France Inter, entre les 12 têtes de liste aux européennes.
Et la petite idée, le petit plus, les candidats devaient apporter un objet. Hein, c'est une bonne idée, Charline, vous auriez dû penser pour cette émission à une époque. Et François Asselineau s'est cru au Club SM.
Eh bien, j'apportais un objet... qui est une paire de menottes.
Les menottes qu'il a apportées, ça irait mieux à Marine Le Pen et l'Europe pour son histoire d'emploi fictif au Parlement. Justement, Jordan Bardella, lui, s'est cru au télé-shopping.
Vous ai rapporté ma passoire.
Voilà, c'est brillant, une passoire. Dans la série Métaphore, Benoît Hamon, lui, a apporté un gilet de sauvetage. Probablement qu'il essaye d'anticiper au maximum son naufrage électoral.
Un dernier,
Yannick Jadot est venu avec un pot de miel, car cela va disparaître à terme, dit-il, et quitte à symboliser quelque chose qui risque de disparaître, il aurait pu peut-être venir avec sa carte de membre à Europe Écologie Les Verts.
Allez, le reste de la politique avec la crise des migrants. Pour Christophe Castaner, les ONG ont pu se faire complice des passeurs.
Oui, alors que Castaner, pour être sûr de rentrer quelque part, il préfère se faire complice des videurs.
Nicolas Sarkozy rejoint le conseil d'administration du groupe Barrière.
Appelé chez Barrière, ça doit le changer d'être appelé à la barre avant peut-être de finir derrière les barrières.
International à présent aux États-Unis, lors d'un dîner avec des élus républicains, Donald Trump a déclaré, il paraît que le bruit des éoliennes provoque des cancers.
Alors, franchement, si le vent donnait le cancer, ça fait longtemps que Trump aura un cancer du cerveau.
Selon une étude dans Le Monde, la mauvaise alimentation tue plus que le tabac.
Et c'est vrai, la mauvaise alimentation tue. Elle a d'ailleurs tué Claude François à une époque.
Télévision. Télévision. Emmeline, candidate aux 12 coups de midi, qui a affronté Christian Quesada sur TF1. Ouais. Elle affirme avoir reçu contre sa volonté des photos intimes du grand gagnant.
Non, ça doit être une erreur.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Emmeline, elle est majeure, donc c'était
bon,
une erreur.
Passons à Daniel Bravo.
Daniel Bravo, ancien joueur du PSG et commentateur sur Beansport. On l'a pas entendu celle-là ?
Non.
On l'écoute après un but de l'attaquant strasbourgeois Nuno Da Costa.
Il a de belles stats quand même. Hein. Sixième but, cinquième passe, cinq passes décisives, c'est pas mal. Un noir, un joueur qui
n'a
été titulaire que
17
fois.
Il a ripé, il a failli dire pour un noir. Puis il s'est dit non, ça se dit peut-être pas en télé.
D'accord.
Et donc Daniel Bravo, on dit surtout bravo Daniel.
Ah, on a déjà eu beaucoup de brèves politiques, il me semble.
J'en ai encore deux. Un papy qui croyait aller à Limoges se retrouve à 1000 km de chez lui en Espagne. Et la légende raconte que c'est comme ça que Manuel Valls s'est retrouvé à Barcelone.
La ultima
à les États-Unis. À 61 ans, elle accouche de sa petite fille. Comme mère porteuse, elle a accouché du bébé de son fils, devenant du coup grand-mère.
Oula, quand même,
oui. Oui, ça promet quand même au gamin au minimum 15 ans de thérapie, rien que pour le complexe d'Oedipe.
Merci Alex Vizorek.
De rien, Charline Anaguer.
Donc, mardi, vous jouez à Brest.
Je vais au bout de la France.
Au Quartz. Au bout de la France. Donc, résultat, mardi, 17h, vous faites quoi, Juliette Arnaud?
Je suis avec vous.
Je suis libre, génial.
Non, parce que c'est pas possible. En 1h30, je peux pas arriver à Brest.
Oh là là, dites donc. Allez, Nadia Dame est en notre compagnie. On en profite. Alors, qu'attendons-nous encore de l'Europe? Qui croit encore à l'Europe? Même la génération Erasmus semble découragée pour qu'on arrive au résultat de ce sondage. L'Union ne représente un espoir que pour 29% des Français. Il y a 15 ans, vous étiez encore 60% à y placer quelque espoir. Allez, rien de tel qu'un petit hymne à la joie pour se requinquer.
L'hymne à la joie.
et que le monde retrouve la joie. Affaibli, asservi, la force du désespoir. Ni animal, ni robot de 1005 années d'histoire dans le cerveau. Une balle dans la tête ne pourrait stopper la tempête. Ma rage éclate hein, ouais. Pour tous et tous.
Allez, fais tourner dans tous les pays. Doc Gynéco, repris l'hymne à la joie. C'est... Voilà, on en est là en Europe, Nadia Dam, aujourd'hui. Hein, c'est bien la preuve. Alors, vous êtes alsacienne, Nadia?
Oui.
Bah ouais. Ouais. Et quand on travaille pour Arte, qu'on a grandi en Alsace...
Alors, j'ai pas eu de passe-droit. Hein. C'est pas parce que je suis née à Schiltigheim que je travaille sur Arte.
Ouais. 17h28 à Schiltigheim. Comment est-ce qu'on... Ah oui, j'ai lancé mon bras et il y a un son qui est parti. Excusez-moi. C'est le principe de la radio. On lance le bras parce que voilà, je suis un peu enthousiaste et il y a un son qui part. Comment on appelle les habitants, vous savez,
de Schiltigheim? Ouais. Je sais pas parce que je suis partie vite. J'avais 6 mois, mais je sais pas.
Je sens que ça peut intéresser sur Twitter, la France. On va faire une recherche.
Dites-le nous. Mais voilà, vous venez d'Alsace, vous travaillez sur Arte, donc j'imagine que ce sondage, ça vous fait quand même mal. C'est
Je continue à bien dormir, hein. Ça va. Je vais m'en remettre. Mais ouais, effectivement, j'y ai pensé aujourd'hui. Je me suis dit que moi, je suis pas la seule, hein, mais un rapport à l'Europe particulier. Effectivement, à cause de Strasbourg, où on a des institutions européennes. Moi, j'ai fait un lycée international. Enfin, voilà, c'était très présent dans la.
C'était un peu votre Erasmus à vous, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pris le bus pour aller jusqu'au lycée. Mais oui, voilà. Donc, c'est un truc que j'ai pas tellement remis en question, moi, quand j'étais jeune. Et il me semble que dans le sondage, on pointe justement que les jeunes, en particulier, se désintéressent de l'Europe. Et voilà, moi, j'ai échappé à ça, mais parce que je suis vieille et strasbourgeoise.
Et dans 28 minutes, c'est aussi un sujet récurrent que vous abordez avec Elisabeth Quint, puis les chroniqueurs, il y a Claude Askolovitch notamment. Vous y avez puisé un peu des réponses à vos doutes? Est-ce qu'il y a parfois des intervenants qui renforcent certaines convictions? Ou je veux dire, c'est un sujet récurrent et un sujet d'inquiétude aussi qui est traité dans l'émission.
Ouais, de toute façon, on angle beaucoup les émissions sur l'international et de fait l'Europe, et en particulier cette année. Et oui, on a des invités intéressants et des débats contradictoires, etc. Et on a fait pas mal d'émissions sur pourquoi... C'était pas formulé comme ça, c'était pas ce qu'on appelle le liner, mais pourquoi l'Europe fait chier tout le monde. et sans jamais vraiment trouver de réponse, mais avec plein de pistes intéressantes, et celle que je trouve la plus intéressante peut-être, sur ce qui expliquerait pourquoi ça intéresse pas les gens et les Français, c'est que c'est pas incarné. Parce qu'en fait, on demande aux gens qu'est-ce que c'est l'Europe, et c'est éventuellement Jean-Claude Juncker. Ouais. Et alors oui, ou alors il faudrait une autre incarnation, mais on manque d'incarnation, de support.
Ouais. Moi, je pense, par exemple, de figure commune peut-être.
Ouais, regardez les billets par exemple. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a sur un euro? C'est des ponts.
Ah oui,
bah voilà,
c'est
aller
vrai.
Faire rêver les gens avec,
alors
avec
tellement
des ponts.
Symbolique,
sur...
c'est
oui, alors qu'il y a plein de figures. Moi, je milite pour qu'il y ait le chanteur Arnaud sur les billets, par exemple.
On va être pour.
Moi, je suis sûre. Ouais, bien sûr, oui, des figures de culture commune.
Bah, peut-être, rendre le truc peut-être plus incarné, plus sexy.
Plus sexy. Jean-Claude Juncker avec un slip sur la tête, par exemple.
Alors, non.
Déjà, serait.
Ou Nicolas Dupont-Aignan, peut-être. Ça le ferait aimer l'Europe si c'était sur les billets.
Nadia Dam, en notre compagnie.
J'ai l'info, bien évidemment, des habitants de. Rappelez-moi.
Schiltigheim.
Les Chiliquois et les Chiliquoises.
Eh ben voilà, je suis chiliquoise.
Ouais. Vous êtes chiliquoise.
Je vais le mettre sur ma bio
ça
Twitter.
Fout un coup, hein.
Music now, Mélanie Boer.
Yes. Boer. Alors moi, j'ai pas fait d'école de journalisme non plus. Alors
ça
je suis
sent,
toujours,
hein,
je suis toujours un peu démunie face au fameux mot en isme, ce besoin de toujours classifier les idées, ça m'angoisse. Ça me fait penser au supermarché à droite, le rayon libéralisme à côté du sexisme, à gauche le socialisme, juste devant celui du féminisme. Avec aussi en ce moment en tête de gondole hein, la grosse promotion sur le populisme. Moi, ce qui m'intéresse chez l'humain, c'est le doute. Le doute, c'est la base même de la création. C'est impressionnant, le doutisme. Je me suis longtemps questionnée, hein, par exemple, sur les événements uniquement féminins, comme le festival Les Femmes s'en mêlent, qui se déroule en ce moment même et qui encourage depuis le 8 mars 1997, Journée internationale des droits de la femme, la scène musicale féminine indépendante. Alors attention, hein, je nie pas l'utilité de ce festival et encore moins sa qualité, c'est juste qu'une fois de plus, je me sens enfermée dans le rayon femme du disquaire et je peux pas m'empêcher de douter. En quoi le féminin est-il un genre musical? Eh oui, si mon sexe a effectivement des lèvres pour gazouiller, jusqu'ici rien ne prouve que mon vagin a des oreilles.
Point d'audience.
Superbe artiste folk nouvelle génération, l'américaine Emily Wells, ce soir à Paris au Trabendo, très belle voix. Demain à Dijon et mercredi 10 à Fézin. Bon, alors depuis les 22 ans de son existence, le festival Les Femmes S'en Mêlent joue sur l'ambiguïté de son titre. Les femmes qui s'en mêlent, c'est lesbien. Les femmes qui se mêlent de la musique, c'est bien. Et bien sûr, les femmes s'en mêlent aussi les pinceaux. Et revoilà le doute. Un doute raisonnable, néanmoins balayé une fois de plus par la diversité et la qualité des artistes à l'affiche de ce festival, comme la déesse du Cuduro, cette danse angolaise qui s'inspire des mouvements de kickboxing de Jean-Claude Van Damme. Oui, le cul dur, dont la musique fut popularisée par le groupe portugais Buraca Sam Sistema et la chanteuse Pongo, qui s'émancipe ici pour une carrière solo et un concert demain à Paris, toujours au Trabendo, aux Femmes S'en Mêlent.
On aurait aimé une démonstration, c'est pas très radiophonique, mais...
Oui, le 100% féminin, c'est bien, c'est confortable, ça délie les langues, c'est une sécurité, mais ça nous renvoie aussi au 100% masculin, ce modèle dangereux de machisme à la papa. Et même si je retirais d'un coup de baguette magique la dimension beauf du 100% masculin et que j'imaginais des mecs en juste corps sauter en l'air sur des chansons d'amour, comme par exemple, mettons, les boys bands, eh ben, leur équivalent féminin serait probablement tout aussi stupide. Tout le monde se souvient des Spice Girls et du girl power, des clichés de Barbie qui sautait en l'air en criant le pouvoir aux filles, pas aux femmes, non, ça fait trop peur, aux filles. Tell me what's your song, what's your favorite song, I'ma play it on my own, cause I'm a big girl. Tell me what's your song, what's your favorite song, I'ma play it on my own, cause I'm a big girl. C'est vachement bien. C'est demain à voir à Vendôme dans le cadre des Femmes S'en Mêlent, ce groupe canadien Random Recipe avec à l'instant ce titre Big Girl. Bon, il faut conclure, hein, donc je vous raconterai que c'est avec plaisir, hein, que j'avais envie de vous faire découvrir cette scène musicale indépendante féminine avec cette chouette programmation, Les Femmes S'en Mêlent. Et pour ce qui est du doute, bah, je ne vous cache pas la joie avec laquelle je viens travailler à France Inter, sachant que j'y suis entourée de femmes brillantes et bienveillantes qui savent que Clitoris n'est pas un empereur romain. Mais je suis aussi heureuse de ne pas être parquée dans une émission 100% femme, car femme ne définit pas une pensée, c'est juste encore un moyen de nous ranger dans un rayon franfreluche. Et au risque d'enfoncer une porte ouverte, je terminerai en disant que l'avenir se doit d'être mix avec une curiosité uniforme pour toutes les féminités et toutes les virilités. We'll be right back. MLF, MBH, c'était Mistress Bombe H, la Rennaise Hélène Lecor, à voir à Lorient demain, à l'Hydraphone, à l'affiche évidemment des Femmes Sans Mêle et toute la programmation sur les LFSM.net. Je vais pas me tromper.
Pendant le disque, Alex Vizorek a dit elle se ferait pas chier à chanter des fois.
Parce qu'elle a mis du temps à se décider.
Et pourtant,
y aller.
Juliette a reconnu que c'était le chant du MLF.
C'est évidemment. Les femmes, le chant du MLF.
Bien sûr. Merci, il est 17h38 sur France Inter. C'est Nadia Dame, notre invitée. Ce soir, vous la retrouvez comme tous les soirs dans l'excellente émission d'Arte 28 minutes aux côtés d'Elisabeth Quin. Nadia Dame, vous pouvez aussi la lire sur Slate, bien sûr, outre les ouvrages que vous avez publiés, Nadia, bien sûr. Et à côté de vous, avant de parler contraception, il y a Christine Gonzalez.
Le Conseil de Paris a voté cette semaine le retour de 1630 panneaux publicitaires dans la capitale. Vous savez, ces panneaux lumineux géants qui polluent notre cerveau et diffusent de la pub 24 heures sur 24. Eh bien, ces télés immenses, qui dépensent pas mal d'énergie d'ailleurs, font polémique. Mais Anne Hidalgo est contente, ça rapportera 170 millions d'euros en 5 ans, de quoi financer par exemple 8 crèches. Dans l'au-delà, il y a aussi ce genre de débat. Vous connaissez Le Corbusier, célèbre architecte et urbaniste du XXe siècle, qui a dans l'au-delà la folie des grandeurs. Et ça plaît pas à tout le monde. Il a imaginé des immenses panneaux publicitaires très design. Mais par contre, là-haut, ce sont les politiciens qui s'opposent à ce projet. Le Corbusier, toute cette histoire vous fâche. Hein.
J'ai sur le cœur quelque chose. Ces jours-ci, c'est il y a 2 ou 3 jours, on s'est permis de me faire des objections.
Quelles objections ?
Des objections d'architecture. Qui m'ont touché au plus vif de la conscience et du problème de dignité.
Oui, vous vouliez les placer où, ces panneaux publicitaires ?
Sur un horizon magnifique, enfin un horizon, ça suffit, un horizon est une chose magnifique parce que l'infini y passe, n'est-ce pas ?
C'est vrai. On en reparle dans quelques instants, le temps d'une courte page publicitaire.
Les hommes et les femmes de Mammouth s'engagent à être encore plus proches de vous.
Mammouth, centre de vie, pour le plaisir.
Oui, juste pour info, je diffuse dans cette chronique de la publicité de marques disparues. Ouais. Ça, ça rapporte de quoi financer quelques cimetières. Le Corbusier, vous nous parliez d'objections à votre projet de panneaux publicitaires.
Des objections de nature architecturale me sont faites par qui ? Par des gens qui n'ont aucun droit à le faire.
Mais qui exactement ?
Le ministère et,
de l'urbanisme de l'au-delà, j'imagine. Mais à quoi ressemblent ces panneaux que vous avez dessinés, histoire qu'on comprenne mieux, parce que c'est pas clair là, cette histoire.
Ils ont des dimensions qui n'ont rien de commun avec les règlements médiocres et moyens qui enserrent la construction dans des impasses.
Oui.
Quand je dis dans des impasses, c'est parce que on m'interdit au ministère. Oui. De faire des choses pour lesquelles j'ai eu jusqu'ici des dérogations.
Je vous interromps, on se retrouve après cette courte page de publicité.
Vous allez dans l'eau avec une gaine ?
Évidemment, puisque c'est une gaine scandale. Je peux laver ma gaine tous les jours, si ça me plaît. C'est une gaine scandale.
Il n'est qu'une gaine, et c'est la gaine scandale.
Le Corbusier, on reprend notre discussion juste après cette publicité.
Partenaire de la prévoyance funéraire, Marbrerie et organisation d'obsèques.
Le Corbusier, donc, à quoi ressemblent vos panneaux publicitaires exactement ?
Qui a 50 mètres de long, qui a 16 à 20 mètres de haut, 11 mètres de large, où il n'y a rien de rien dedans. Il y a du béton.
Oui, mais c'est immense, hein, déjà que la publicité est polluante. Alors en plus, si c'est sur des panneaux de 50 mètres, c'est anxiogène.
L'architecture moderne, c'est une religion.
La suite de notre chronique, après cet avis d'essai publicitaire.
Jean-Louis David, 10% de réduction sur présentation du ticket cinéma.
Le Corbusier, on revient à vous et à votre projet colossal de panneaux publicitaires. Vous aviez quelque chose à ajouter ?
Voilà, j'ai vidé mon sac, j'ai vidé mon cœur, j'en ai par-dessus la tête depuis 7 années que je travaille avec toutes les autorités compétentes, de savoir que je suis freiné par des gens qui n'ont pas la qualité pour ça.
Oui, alors ça oui, on a bien compris. Une dernière publicité de marque morte et on se dit au revoir.
Le Parti Socialiste, à la vie et surtout à la mort.
Le Corbusier, belle soirée, merci de votre confiance.
C'est un acte de confiance réciproque.
Merci Christine Gonzalez.
C'est une des premières fois que vous faites un Suisse.
Oui,
Il est né suisse.
C'est vrai qu'il est suisse. Les Français oublient qu'il est suisse. Il est suisse.
C'est vrai.
Il est suisse.
Et vous retrouve ce soir sur la RTS d'ailleurs, la première.
Sur la radio, la première.
Vous avez l'émission qui s'appelle Question Q.
On parle de cul. Oui. Et ce soir, on parle de fantasmes.
Ah, très bien. Eh ben, écoutez, voilà, c'est à 21h sur la RTS. On peut écouter sur via internet, bien sûr.
RTS.ch, merci.
17h42 sur France Inter. Nadia Dame est en notre compagnie. On va aborder cet autre sujet avec vous. Vas-y, que tu payes ta contraception, c'est le thème. Parmi les thèmes de discussion libérés par le mouvement MeToo, il y a notamment les effets secondaires de la pilule, la charge qu'elle représente pour les femmes. Alors la pilule reste bien sûr un grand symbole, mais des femmes rappellent que ça peut aussi être une souffrance avec des effets secondaires. Par ailleurs, la pilule pour hommes vient de passer des tests avec succès. Attention. Comme tout symbole, il va de pair aussi avec une pression sociale.
Alors, je t'ai fait la liste des trucs qui me manquent. Alors, un comparat, un cahier 24-32, 92 pages à petits carreaux, une pilule mini-dosée, un classeur souple, grand format, couleur verte.
Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit là?
Un classeur vert?
Non, avant le classeur vert, t'as dit quoi?
Pilule mini-dosée. C'est pour l'acné. Toutes mes copines la prennent, ça marche super bien.
Mais quelle acné? T'as aucun bouton.
Mais je suis bourrée de boutons.
Ah bon, où ça?
Bah là, dans le dos, partout.
Oh, écoute, c'est pas trois petits boutons.
Bah si, justement. Ça commence comme ça et ça peut devenir hyper grave. D'ailleurs, ils le disent partout, regarde. L'acné favorise l'inquiétude et le mal-être de l'adolescent déjà énormément perturbé par sa métamorphose pubertaire.
Mais t'es perturbée par ta métamorphose pubertaire.
Un extrait de Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2 qu'on adore. Le Huffington Post, par exemple, évoque la publication d'un manifeste sur la souffrance engendrée par la contraception. Il y a aussi le succès du hashtag Paye ta contraception. Le tout est lancé par la militante féministe Sabrina Debusca. On connaît une phase de méfiance envers la pilule. Il y a quelques femmes qui l'abandonnent. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est temps de réclamer des alternatives? Est-ce que c'est un sujet, je pense, que vous regardez de près, ça, les alternatives à la pilule? C'est quand même grave, parce que la pilule est un symbole très très fort. Aujourd'hui, on s'en méfie un peu.
Bah oui, moi, en tant que propriétaire d'un utérus, je suis un tout petit peu concernée. Oui, mais non, mais après, ce qui m'étonne un peu dans ce mouvement qui est génial, mais c'est qu'on lit que la parole se libère autour de la contraception féminine. En fait, c'est évidemment, c'est comme MeToo, c'est pas la parole qui se libère, ce sont les oreilles qui se débouchent, parce que ça fait très longtemps que les femmes, dans les années 70, il y a des collectifs de féministes qui ont commencé à dire que la contraception hormonale avait des effets indésirables hardcore et qu'il fallait se réfléchir à tout ça. Mmh. Et on les entendait pas. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus visible, mais ça fait très longtemps. Enfin, tout le monde le sait. Moi, on en parle entre femmes ou avec des hommes. Je prends la pilule. Mmh.
Je vous rappelle que le vagin n'a pas d'oreille.
Certes, c'est vrai.
Juste, c'était tout
à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, voilà, il y a des témoignages depuis très longtemps sur les blogs. On sait qu'il y a énormément de contre-indications avec la contraception. Moi, donc, je prends la pilule et je fume. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux mourir dans ce studio ou être terrassée par une phlébite et me faire amputer. Enfin, on sait tout ça. En fait, ça fait très longtemps que les femmes le disent. Alors, voilà, c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui.
Est-ce que les hommes se rendent compte que c'est une charge? Est-ce que l'État se rend complètement compte que c'est une charge aussi, etc.?
L'État, je ne sais pas. Il serait temps quand même qu'il le fasse, notamment sur la pilule du lendemain, où il y a quand même quelques couacs. Ça a été documenté. Il y a des filles qui ont fait des caméras cachées et qui sont rendues dans des pharmacies pour demander des pilules du lendemain où les pharmaciennes ou les pharmaciens les ont regardées comme si elles demandaient du crack, voire ne leur ont pas donné. Enfin voilà, donc tout ça est documenté. Ouais. Pour ce qui est des hommes, et j'ai pas envie de les charger non plus, parce que la plupart sont concernés. Enfin, ils sont pas non plus désintéressés de tout ça. Premier truc qui me fascine sont les hommes qui imposent à leurs copines ou à leurs partenaires un mode de contraception. Je sais que le stérilé, par exemple, ça révulse plein de mecs parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont le toucher. Alors calmez-vous les mecs. Non. C'est hyper prétentieux. Enfin voilà, donc, c'est vrai. C'est pas possible en fait. Et on aimerait bien.
Quand
mais c'est
à la
pas
glotte,
possible. Non mais voilà, donc il y a quand même des informations qui arrivent aux oreilles des hommes. Bien ils sûr. S'intéressent.
Et
ils
la
sont
pilule
capables d'en
pour hommes, ce serait vraiment une sorte d'égalité parfaite ou?
Je sais pas si on y est vraiment. J'ai l'impression qu'on surréagit un peu à cette histoire. Après, j'ai regardé ce qui a été raconté sur cette histoire de pilule masculine. J'ai regardé les effets indésirables, les effets secondaires. Ouais. Et alors, pour les hommes qui vont prendre la pilule pour hommes quand elle marchera, le pire des trucs, c'est saignement de nez. Ah.
quand toi tu peux crever avec tes pilules de meuf. Et ils en font des cas, c'est-à-dire voilà, quoi, ils disent qu'il y a quelques effets secondaires, maux de tête, etc. Et voilà, j'aimerais bien que la science, c'est bien hein, de faire une pilule pour hommes.
Rajouter des effets secondaires un peu.
Ouais, alléger un peu juste la notice des pilules pour femmes, genre qu'on meurt pas forcément. Mais voilà.
Nadia Dame avec nous.
Moi j'avais déjà essayé la pilule, j'ai pris un mardi.
Ouais.
C'était sympa. Je suis pas tombée enceinte.
Ouais.
Donc ça marche quoi.
J'ai compris. Ouais.
Merci pour cette intervention.
Si je peux, c'est un témoignage.
Je comprends, mais évidemment. Nadia Dame avec nous. Et à côté de vous, Juliette Tarnot, qui malheureusement, c'est à vous maintenant. Ça, c'est vraiment pas de bol. Hein.
C'est pas de bol.
Ouais, t'es mal lancée là.
Non, elle est très très mal lancée. 3-4. La drague. La drague est un art de haute voltige. Si c'est pratiqué par un couillon de la zone, ça donne. Eh, ton père, il fait pas des biscottes? Non? Parce que t'es craquante.
Oh, elle est pas mal.
C'est un don, Alex. Si c'est pratiqué, la drague, toujours par Audrey Hepburn, dans, par exemple, le film Charade, ça fait « Je ne mords pas, vous savez, sauf si on me le demande ». Et là, c'est un strike. La drague n'est pas un art réservé aux êtres de chair et d'os. Les livres aussi se prêtent à la drague plus ou moins adroitement. Ainsi, celui du jour que j'ai dans ma main droite, alors dans une catégorie très adroite de technique de drague, puisque c'est un livre qui commence de la sorte. Ça aurait pu arriver n'importe où, n'importe quand. Ça aurait sûrement pu être bien pire. Elle aurait pu être morte. Ça, c'est un plan de drague diabolique parce que c'est finaud, parce que c'est bien composé. Sauf que je vais être honnête, celui-là de livre n'avait pas besoin de commencer aussi bien. Ce livre-là, il m'avait eu sur le physique. Beau gosse, irrésistible, inspirant et qui sent le soleil. C'est-à-dire, si on continue à pratiquer la métaphore filée, il m'avait eu dès le titre « Une saison à Hydra ». Pourquoi ? Parce que Hydra, c'est une île grecque du golfe Saronique qui est belle à te fendre les paupières, sans route et donc sans voiture, où Leonard Cohen a vécu 7 ans dans les années 60, sans doute parce que, en plus, les crépuscules à Hydra y sont ainsi. Description du livre, le crépuscule donnait aux rochers la couleur des yeux d'un léopard, aux maisons blanches de tendres et délicates nuances de rose, à la mer un bleu d'encre mais fractionné et pailleté d'or, alors que les vents du soir se réverbéraient en silence au-dessus. On est d'accord, on y va. L'action du livre se situe dans les années 50, et ça on le comprend vite, vu que la dame qui aurait pu être morte, vous vous souvenez tout au début, mais qui n'était pas, elle a essayé de passer à trépas en mélangeant Xérès et phénobarbital. Plus personne de nos jours ne consomme ce type de barbiturique. Donc on le sait, on est dans les années 50. Mais on va laisser cette dame qui n'est pas morte et qui surtout ne reste pas dans la suite de l'intrigue. On va rester avec celui qui dit cette phrase empreinte de fatalisme du début, qui est le narrateur, enfin un des quatre narrateurs, et qui s'appelle Jimmy. C'est un jeune homme dont l'occupation principale est d'assister de toutes les manières possibles à un célèbre dramaturge et metteur en scène de théâtre, Emmanuel Joyce. Ça, c'est le deuxième narrateur. Jimmy est célibataire. Emmanuel Joyce est marié à Liliane, troisième narratrice. Et ils vivent tous les trois ensemble, un genre de famille bohème, mais aisée, artiste et cosmopolite. Une famille où le papa trompe régulièrement la maman et où le fils adoptif, Jimmy, essaye de sauver les meubles. D'où le départ à Hydra, parce que nous avons besoin de prendre l'air, comme le dit Liliane, l'épouse, et c'est un euphémisme. Le trio est au bord de l'implosion nerveuse. Hydra, c'est un minimum, mais ce n'est qu'un décor. Il manque un personnage, un nouveau souffle à ce trio éprouvé, et ça sera la nouvelle secrétaire, remplaçante de la suicidée, donc au barbiturique. Elle s'appelle Alberta, c'est une toute jeune anglaise, pauvre mais cultivée, jeune mais fine, et un personnage féminin fait de bonté, de vérité et d'humour. Peut-être parce qu'elle a eu un père pasteur qui lui a appris une leçon mémorable sur ce que c'est que le sens des responsabilités. Son père lui disait à Alberta, peu importe ce que tu fais, tant que tu as parfaitement conscience de le faire. Alors oui, le papa pasteur d'Alberta et certains gens de Saint-Vivant, mais c'est quand même un excentrique. Je récapitule, un trio, une nouvelle arrivante, une île grecque sublime et archaïque, et la possibilité d'un changement moral pour chacun d'entre eux, faire mentir Céline Dion et son « on ne change pas ». Eh ben si Céline, parfois les gens y changent. Quand ils s'en donnent la peine, les gens changent. Pour autant, pas d'optimisme béat, ceci n'est pas un livre de développement personnel, c'est un roman anglais d'une finesse rare, calibré à la bonne distance, avant peut-être de potentielles vacances à Hydra. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnault, rappelez-nous le titre et l'éditeur, s'il vous plaît.
Alors la dame s'appelle Elizabeth Jane Howard, et la maison d'édition c'est Kay Voltaire. Et donc le titre c'est Une saison à Hydra.
Merci beaucoup Juliette Arnaud. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Nadia Dame nous accompagne jusqu'à 18h et abordons ce dernier sujet avec vous. Dans la start-up, on se tutoie. C'est un principe égalitaire, ça me fait tousser. C'est déjà... Il y a l'atout dans la réponse, dans la question. Mais quand votre supérieur hiérarchique vous tutoie, est-ce que ça cache un rapport de domination? Alors allons voir dans la start-up du show business comment ça se passe.
Bon, ici, on ne dit pas oui. On dit oui, Bernard. Tu comprends? Je veux toujours oui avec la locution Bernard derrière. C'est inséparable. C'est comme Stone et Chardin. Tu comprends? Tu ne dis pas tiens, bonjour Stone. Non, tu dis bonjour Stone et Chardin. T'as compris?
Oui.
Allez, fous-moi le camp.
Benoît Poulvorde dans Podium, le film de Yann Wax, dans une émission de filles, c'est rigolo.
C'est un grand film, c'est un grand film. Oui. Alors, je sais si je n'étais pas d'accord avec sa position sur les femmes de 50 ans.
Il y a dans Libération ce matin une tribune du sociologue Alex Albert qui dit notamment que tutoyer son N+1, ça concerne 2/3 des salariés du privé. On se disait la télévision, Nadia Dame, est-ce que c'est le milieu par excellence où on se tutoie? Est-ce que c'est un cliché ou il faut
se tutoyer? Qu'est-ce que t'en penses, Nadia, de ça? Si on te posait la question comme ça, tu dirais quoi, toi?
Non, mais c'est une vraie question, mais certainement. Non, je pense que c'est pire que ça. Je pense que les gens à la télé, dans ces milieux-là, ils doivent se faire des checks maintenant. Ah, c'est encore le stade au-dessus.
Ouais.
Mais oui, évidemment.
On en fait un peu dans l'équipe, alors. Ouais. Ouais, mais pour rire, c'est une parodie. Parce qu'on fait une parodie
non,
de start-up,
parce qu'on est malade. Parce
qu'on a la crève. Oui, t'as raison, il y a check. Mais check, ça veut, c'est quoi? C'est l'équivalent gestuel du tutoiement, alors, d'une certaine manière?
Peut-être, mais en tout cas, c'est ce truc de... Alors, peut-être que vous aimez bien, mais je pense qu'il y a des gens qui se font des checks ou qui se font la bise ou qui se tutoient et qui ne s'aiment pas. Enfin, ça arrive, oui. Évidemment. Ouais. Mais c'est toujours ce...
Non, mais on ne s'aime pas beaucoup.
Juliette, c'est cette espèce de fausse connivence. Moi, j'ai toujours une petite méfiance sur les trucs très codifiés, comme ça, les after-work, les baby-foot dans les entreprises. Ça sent l'arnaque, en général. Et je pense qu'il faudrait faire des études sur le... Croiser les courbes des boîtes où on se tutoie et où il y a des affaires au prud'homme, je pense que ça s'annule pas. C'est pas parce que tu tutoies ton chef qu'il va pas te marcher sur la gueule.
Ouais.
Et donc méfiance, peut... ouais, quand même.
Et puis ce vouvoiement à l'antenne qui est de mise, qui est codifié. Ah ouais, donc en réalité, dans certaines, les entreprises médiatiques où on peut tutoyer son supérieur, etc., check, même si il y a des problèmes, on se vouvoie cordialement.
Ouais, c'est toujours un peu grotesque en fait, parce que les gens savent évidemment qu'on se vouvoie pas. Mais
vous ne trouvez pas qu'en tant qu'auditeur, moi j'aime bien que les gens se vouvoient autour de, aussi, du
oui,
micro?
Oui, parce qu'en fait, c'est quand les gens se tutoient à la télé, ça arrive dans certaines émissions, c'est hyper excluant.
Mais je suis d'accord,
c'est très, c'est évidemment très désagréable.
Nous vous voyons, chers auditeurs, et entre nous, nous vous voyons celui qui va d'entrer dans
mais
ce studio.
Mais vous voyez derrière vous qui est Frédéric Fromet. Il va chanter, c'est le moment de la semaine où il va nous interpréter l'actualité. De quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien, cette semaine, nous avons appris qu'au Canada, le réchauffement climatique allait 2 fois plus vite que sur le reste de la planète. Et comme les Belges sont à la pointe des manifs en faveur du climat...
Aïe.
Chaud Toronto, chaud le Canada. Si t'abandonnes ton gros manteau, abandonne aussi tes chanteuses à voix. Chaud Ontario, chaud, chaud, chaud Ottawa. Il est tout mou, le petit caribou. Il est tout mou, le petit caribou. Chouette ton père, Natacha Saint-Pierre. Chouette ton père, Natacha Saint-Pierre. Chaud, Justin Trudeau. Chaud, le Québécois. Fini Céline Dion, rock voisine pour toujours. Depuis qu'ils nous font suer, c'est leur tour. Fini les bûcherons, fini le curling. Fini le jargon des gens qui magasinent. Fini les jurons des gens qui baragouinent. Hostie de calice, de ciboire, de tabarnak, j'ai les gosses qui claquent. Chaud l'esquimau, chaud le dessous de bras. Si t'abandonnes la rando à motoneige, bon débarras. Chaud le traîneau, chaud, chaud, chaud le verglas. Il est tout cuit le petit grizzly, il est tout cuit le petit grizzly. On s'en fout du chanteur garou, on s'en fout du chanteur garou. Chaud le frigo, chaud le thermostat. Fini l'orignal, fini le trappeur. Le sirop d'érable, la poutine aux 4 heures. Le hockey sur glace, l'autochtone en raquette. Qui part à la chasse, tel Davy Croquette. La tuque en fourrure avec une queue de castor. La chasse à l'ours à Manu, c'est comme Fabien Thibault, on n'en parlera plus. Youpi! Chaud Gilles Vigneault, chaud Charles Bois. Si tu me donnes ta chemise à carreaux, moi je te donne Marlène Schiappa. Bon courage, chaud l'écolo, chaud, chaud, chaud la toundra. C'est foutu, la banquise est fondue, c'est foutu, la banquise est fondue. Reste une plaie, Isabelle Boulet, reste une plaie, Isabelle Boulet. Chaud la météo, chaud, chaud, chaud le climat.
Merci Frédéric Fromet.
Merci.
Vous jouez ce week-end?
Alors ce soir à la Selle Saint-Cloud avec Oldelaf et Guédré.
Waouh, oh quelle chance! Ouais. Merci Frédéric Fromet. Merci beaucoup Nadia Dame d'avoir
merci
passé
à vous
ce moment avec nous. On était très heureux de vous recevoir. Je rappelle qu'on vous voit tout à l'heure dans 28 minutes sur Arte comme tous les jours et qu'on vous lit avec bonheur dans Slate car on aime votre regard sur les choses. Slate.fr bien sûr. Merci Nadia, merci à
Slate,
tout le monde.
On
se retrouve lundi avec José Daillon. Merci à toute notre merveilleuse équipe, Nathalie Romero, Sarah Masson, Mathias Volant, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi, tous à la préparation, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation et notre stagiaire Emma Ferré, alias Emma bien fait rigoler. Allez, on va laisser le mot de la fin à Nadia Dame.
Le stérilé, par exemple, ça révulse plein de mecs parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont le toucher. Alors calmez-vous les mecs, c'est hyper prétentieux.